Seigneur, c'est en ton nom qu'on est tous ici ce matin pour venir recevoir de toi ce que tu as à nous communiquer. Je te demande de parler à notre cœur, je te demande de parler à notre intelligence, de renouveler notre intelligence, qu'on puisse apprendre à te connaître encore plus ce matin. Je te remercie, Seigneur, de ta parole qui est vraie, ta parole qui nous révèle ta pensée. Ô Seigneur, qu'elle puisse être révélée dans notre cœur, dans notre esprit. Oui, merci, Seigneur, de ce que tu vas faire ce matin, dans ton nom. Alléluia. Pendant qu'on est en train de chanter « Serviteur du Dieu vivant », »,« Tiens-toi debout, combat pour ton Dieu », ce que ça m'a donné comme inspiration, c'est chaque fois qu'on est debout, qu'on est en train de parler de n'importe quoi qui est de sa parole, n'importe quoi qui est de Jésus, on proclame son nom, on est en train de combattre pour notre Dieu. On est en train de parler pour Dieu. La majorité du temps, chaque fois que quelqu'un entend parler de Dieu, c'est comme si Dieu lui parle. Puis Dieu a choisi d'utiliser notre bouche pour pouvoir proclamer son nom. Puis si on n'en parle pas, il n'y a pas personne qui va en entendre parler. Puis le Seigneur nous a choisi, étant son peuple, pour annoncer ses vertus, qui nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Puis merci Seigneur de ce qu'il fait déjà, parce qu'il sert de nous autres, puis il va servir encore plus de nous autres, en autant qu'on est disponible. Comme notre frère Sylvain il a dit, il ne faut pas être gêné, il ne faut pas avoir peur. Faut le dire, on s'affiche, je suis chrétien, je crois en Jésus, je crois en sa parole. C'est ça qui est témoigné. Les gens vont dire, bon, il y a quelqu'un qui a quelque part qui affirme sa foi. Tu n'es pas obligé de tout connaître la Bible par cœur pour annoncer ces choses-là. Tu as juste à annoncer ce que Jésus il t'a révélé, ce que tu as compris, ce qu'il fait dans ta vie. Si on regarde comparativement à la fête qui s'est produite cette semaine, c'est une belle fête pour les enfants, sauf que dans le contexte qui est créé, cette fête-là est néfaste. Savez-vous pourquoi? Parce que ça rend les gens de plus en plus familiers. Ils sont comme au naturel face aux sorcières, aux démons, face à la peur, à la mort, face à la présence d'esprit. C'est ça, cette image-là, qui est donnée à travers de cette fête-là de l'Halloween. Ça rend les gens familiers. C'est pas grave, des démons, on rit de ça, ils sont là. On déguise notre enfant en démon. On déguise notre maison en temple démoniaque. Je parle pas ça qu'on fait ça, mais c'est la pensée qui est en arrière de cela aujourd'hui. Puis, ça rend le monde familier à la peur, familier à la mort, familier aux esprits, aux sorcières, à la magie, aux choses des ténèbres, du monde occulte. Puis dans tout cela, où est-ce qu'elle est la conscientisation ou la prise de conscience de Dieu là-dedans? Là, on prend conscience de tous les esprits, les démons, les sorcières, le monde occulte. Mais la prise de conscience face à Dieu, on ne la retrouve pas dans cette fête-là. À quelle place qu'on peut la retrouver, cette prise de conscience-là, de que Dieu est là et que Dieu a de quoi dire? C'est ici. C'est dans les endroits où ce que les gens se rassemblent pour entendre parler de Dieu, entendre parler de sa parole. C'est là qu'on devient de plus en plus conscient que Dieu est là, que Dieu il nous parle, que Dieu se révèle, que Dieu a de quoi, un appel pour nos vies. Puis quand on annonce les paroles de Dieu, quand on a dit s'afficher en tant que chrétien, bien les gens ils commencent à prendre conscience que, oups, il y a quelqu'un qui parle de Dieu. Puis là, ils prennent conscience que peut-être que Dieu est là, puis peut-être que Dieu pourra faire quelque chose pour moi, puis plus qu'ils en entendent parler, plus que leur conscience s'ouvre face à Dieu. Ça fait l'effet complètement contraire que la fête qu'on a vue cette semaine. Puis je vous encourage chacun de vous à rechercher tout ce qui va contribuer à augmenter votre foi, puis à augmenter votre désir, votre soif de connaître Dieu. Puis merci Seigneur des endroits qu'il nous donne comme ici, d'avoir cette liberté-là de pouvoir amener puiser la connaissance de l'Éternel. On est tout encouragé d'apprendre à connaître Dieu aujourd'hui parce qu'on est libre de venir, puis on entend des choses, on est béni en sa présence, puis ça nous fortifie, on sort fortifié. Mais les gens du monde, ils ont besoin d'entendre nous aussi. Puis le Seigneur nous envoie chacun de nous aller parler de lui pour que les gens prennent conscience que Dieu est là. Le message qu'on va voir ce matin, ça va nous révéler Dieu dans une facette qu'on a peut-être déjà entendue, mais après avoir passé à travers du message, vous allez voir que ça va nous donner une vision de plus en plus grande de marcher dans la lumière. Une fois qu'on apprend à connaître que Dieu est lumière, puis qu'il s'est révélé à chacun de nous, puis il s'attend à ce que chacun de nous, on marche dans la lumière. Le premier passage, il va y avoir beaucoup de versets qu'on va lire. Je vais essayer de faire ça vite parce que le temps, il est court. Et vous n'êtes pas obligé d'aller feuilleter. Ceux qui prennent des notes, je vais nommer les versets. 1 Jean 1, 5, 7. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand on dit qu'il est lumière, ça symbolise au niveau de son être que Dieu il est trois fois saint. La parole de Dieu nous le présente comme un Dieu saint. Quand on arriverait à dire qu'une chose est rendue sainte, bien, il y a encore une étape encore plus profonde que Dieu est. Il est deux fois saint. Il y a même encore plus fond, Dieu, plus au fond, il est trois fois saint. La profondeur de la sainteté de Dieu ne peut pas se comprendre avec notre intelligence humaine. Tout ce qu'on se dit, c'est qu'il est pur. Mais il n'est pas juste pur, il est pur jusqu'à trois épaisseurs de pureté. Dieu, il n'y a pas en lui de ténèbres. Il est pur. Son image, c'est de la gloire, une gloire glorieuse. Je ne sais pas ce qu'on peut s'imaginer quand on lit l'Apocalypse, il dit « Et je vis le trône et celui qui était assis dessus. » Son aspect était comme une pierre précieuse, comme de l'ardoise. Puis ça émanait de la lumière, c'est sa présence. Dieu est pur, Dieu est saint. Quand tu rentres dans sa présence, tu es tout de suite saisi par cette pureté-là, par cette sainteté-là. Puis ça nous pousse même à vouloir devenir comme lui. Tous ceux qui ont une soif de lui, bien entendu. Dieu, il est sans tâche. On ne peut pas y faire aucun reproche. Sa vie, depuis le début de la création, de même dans le monde invisible, jusqu'à la fin, il était sans tâche, pur, dans une sainteté absolue. Dieu est lumière. Ce qui émane de lui, c'est l'intelligence, la vérité, la connaissance, la bénédiction, la purification. Tout ce qui touche Dieu s'est rendu pur. Quand Moïse il était devant l'apparition de le buisson ardent qui était en flamme, puis qui a entendu la voix de Dieu, Dieu lui a dit « Enlève tes sandales, car le lieu où ce que tu es, c'est une terre sainte. » Parce que Dieu, le Dieu saint, était là, révélé à ce moment-là, il était présent, et le lieu où ce qui était debout s'était rendu saint. Tout ce que Dieu touche est purifié. Dieu est absolument pur de tout mélange étranger, puisqu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand il dit Dieu est lumière, puis qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Quand Dieu est là, c'est de la lumière, puis tout ce qui est ténébreux devient éclairci, puis il chasse les ténèbres, il dissipe les ténèbres. Contrairement aux ténèbres, ça représente l'aveuglement, l'ignorance, la méchanceté, le mensonge, le péché, la rébellion. Dieu, lui, c'est le contraire. Sainteté, pureté, sans tache de la gloire, de la lumière, c'est ce que Dieu émane. Dieu, dans son apparence, si on pourrait le voir de nos yeux, il est comme recouvert de lumière. Dans le psaume 104, le verset 2, il nous dit « Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. » Si on pourrait le voir de nos yeux, il est comme enveloppé de lumière. Tout ce que tu vois de lui, c'est de la lumière. Puis la Bible, elle nous dit que Dieu y habite une lumière inaccessible que tu ne peux pas atteindre. Dans 1 Timothée 6, le verset 16, il dit « Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. » Dieu habite une lumière inaccessible que nul homme n'a pu voir. Toutes les fois qu'on a une révélation de Dieu, une de ses facettes qui est révélée dans sa parole, ça ne pouvait pas être perçu de nos yeux humains. C'est une révélation que Dieu donne de sa présence. Il n'y a aucun humain qui pourrait rester dans la présence de Dieu. Nul homme ne peut voir la lumière dans laquelle Dieu est. C'est sûr qu'un jour après la résurrection, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Mais on va voir une facette de la révélation de Dieu. Mais Dieu lui-même, c'est de la lumière. Tu ne peux pas percevoir autre chose, mais si on voit autre chose, c'est qu'est-ce que lui permet d'être révélé. La Bible nous dit que par sa lumière, Dieu va éclairer éternellement la nouvelle terre. Parce que la Bible nous parle qu'il va y avoir une autre création. Le ciel et la terre d'à présent vont disparaître, vont être roulés comme un vieux vêtement. Tout l'univers complet, fouf, va disparaître. Puis Dieu va créer un nouveau ciel et une nouvelle terre où ce que la justice va habiter. Quand notre frère a amené le message ce matin prophétiquement, il dit « Dieu a préparé Jérusalem pour la joie, mais c'est cet endroit-là qui est Jérusalem pour la joie. » Où ce qu'on va vivre éternellement une histoire sans fin, dans la présence de Dieu, un plan que Dieu a déjà préparé d'avance, qu'on va vivre, qu'on va avoir des rôles différents, on va vivre la vie éternelle. Sauf qu'il n'y aura pas de soleil ni de lune pour éclairer. Il n'y aura plus de nuit dans la ville sainte. Car le Seigneur, notre Dieu, c'est lui qui va éclairer de sa lumière. La Bible dans l'Apocalypse au chapitre 21, le verset 22 à 26, il dit « Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, les rois de la terre y apporteront leur gloire. » Puis ses portes ne se fermeront point le jour, car il n'y a point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Dans ce lieu-là, c'est le jour éternellement. Puis c'est pas le soleil qui va nous éclairer, c'est Dieu lui-même de sa lumière et Jésus lui-même de son flambeau. Dieu est celui qui éclaire tout l'univers. De lui est sortie la lumière de la vie. Dans Actes 17, 28, il dit « Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. » C'est en lui que nous sommes conscients de la lumière de la vie. Si on peut voir aujourd'hui que la vie est là, puis qu'on est à l'intérieur de notre corps, puis on se pince, puis on dit « Je suis vivant, je vois les choses. » On voit la lumière de la vie. Mais il dit « Toute chose est créée en lui. » C'est lui qui procure la lumière de cette vie. Je parle pas de la lumière terrestre, je parle de la lumière de la vie comme telle. On est entré dans sa création, puis on est conscient qu'on est éclairé, puis qu'on voit les choses, c'est grâce à lui. Tout ça est créé en lui. Tout ça, ça sort de lui. Dieu, il est appelé le Père des Lumières. Dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. » Ça dit bien « tout don parfait. Dieu donne pas de mauvaises choses. Ça descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est Dieu qui est le Père des Lumières. Que ce soit la lumière de la vie, que ce soit la lumière céleste éternelle qui va éclairer la nouvelle terre, ou que ce soit la lumière de la vie présente, ou que ce soit les lumières qu'on peut comprendre, ces vérités, l'intelligence, la connaissance, de connaître la vérité, c'est donné par notre Père Dieu. C'est le Père des Lumières. C'est lui qui a pensé et enfanté la lumière de la vie, puis représenté en sa personne la pureté et la sainteté qu'elle représente. Quand Dieu il a créé la lumière comme telle, quand il dit la lumière éternelle ou la lumière de la vie, la lumière comme telle, quand tu regardes, ça représente la pureté. Tu vois pas de ténèbres dans la lumière. Regarde, essaye de voir quelque chose de noirceur en regardant le soleil. Tu vois juste un spot lumineux, tu vois rien de sombre. C'est tout, ça éclaire, mais Dieu a voulu que la lumière nous annonce comme c'est de la sainteté et de la pureté. Ça représente la sainteté et la pureté, la lumière. Mais c'est Dieu qui a créé toute chose en passant par la lumière pour révéler que cette lumière-là, ça représente la sainteté, mais Dieu est cette lumière-là. C'est la manière qu'il a voulu se montrer à l'humanité. La parole de Dieu nous a annoncé d'avance la venue de cette lumière dans ce monde, dans notre monde. Dans Matthieu 4, le verset 13 à 16, il dit, ça parle de Jésus, « Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Ça, c'est une promesse, une prophétie annoncée dans l'Ancien Testament qui nous annoncerait la venue de la lumière dans ce monde. Ça ne nous parle pas de la lumière soleil ou la lumière qui nous éclaire, la lumière de la vie. Ça nous parle d'une personne qui naîtrait et qui serait la lumière dans ce monde. Cette personne-là, c'est Jésus. Les gens de foi du temps de Jésus, ils étaient dans l'attente de la venue de celui qui éclairerait les nations. Dans Luc 2, le verset 25 à 32, il dit « Voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, puis il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit-Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il s'en venait pour le circoncire puis l'offrir au Seigneur. Il le reçut dans ses bras, il bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. » Les prophètes, ceux qui marchaient guidés par le Saint-Esprit dans le temps de Jésus, avaient été avertis d'avance par le Saint-Esprit que la lumière viendrait dans ce monde et que lui, ce personnage-là en particulier, il avait été averti qu'il ne mourrait point sans l'avoir vu. Et quand il l'a vu, il a proclamé à ses parents devant ceux qui étaient là que c'était la lumière pour éclairer les nations. Jésus est la lumière pour éclairer les nations. C'est un salut qui a été préparé devant tous les peuples. Cette lumière-là n'a pas été envoyée juste pour les Juifs. C'est une lumière qui est envoyée pour tous les peuples, en particulier aussi les Canadiens. C'est pour nous autres aussi, cette lumière-là. C'est pas juste pour Israël. C'est pas juste pour les États-Unis. C'est aussi pour nous, les Québécois, même les ceux qui vivent à Châteauguay, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, des... Châteauguay, bon, mais c'est pour les Châteauguay, c'est pour ceux qui sont constants, je ne sais pas comment ils appellent ça, mais c'est pour toutes les nations, pour tout le monde. Jésus est la lumière envoyée de Dieu pour nous éclairer. Jean-Baptiste avait été envoyé de Dieu pour rendre témoignage de la lumière. Dans Jean 1, 6 à 9, ça nous dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin pour rendre témoignage de la lumière, afin que tous crus par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Jean-Baptiste avait été envoyé afin que tous crus par lui. Son témoignage, sa prédication, son message qui prêche à tout le monde. La lumière, elle s'en vient. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. C'est lui que Dieu envoie pour éclairer les nations. C'est lui le oint. Il l'annonçait d'avance, afin que tous crussent par lui, Jean-Baptiste. Voyez-vous, quand on disait tout à l'heure qu'il fallait proclamer qu'est-ce qu'on sait des choses de Dieu, parce qu'on annonce la lumière, on annonce aux gens que Dieu est là, on leur fait prendre prise de conscience que Dieu est là, on leur fait prise de conscience que Jésus est venu, que Jésus agit encore aujourd'hui, que Jésus éclaire notre vie, c'est lui qui est la lumière envoyée par Dieu pour nous sauver. Afin que ses disciples croient en lui, Jésus, il a été transfiguré devant Pierre, Jean et Jacques dans son état glorieux. Dans Matthieu 17, 2, il dit, « Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, puis ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Il a été permis à ce moment-là que les gens puissent avoir une prise de conscience de qui était vraiment Jésus, qui était la lumière qui devait venir dans ce monde. Son visage était comme le soleil. Les disciples, essayez de fixer le soleil, vous allez voir que ça... Ben les autres étaient en face, à côté. Là, il était transfiguré, c'était comme le soleil, puis son corps était comme la lumière. De lui émane la lumière. On parlait de Dieu est lumière, ça comprend Jésus est lumière. Grâce à Jésus, nous pouvons voir et comprendre le pour et le contre afin de marcher dans la vérité dans cette vie. Parce que Jésus lui a dit que si on le suit, on va être éclairé de sa lumière. Jean 8, 12, il nous dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. » Il nous a été permis d'avoir la lumière de cette vie, de naître et d'être conscient de la vie présente. Mais la Bible nous dit que celui qui suit Jésus, il va avoir la lumière de la vie, mais ce n'est pas la lumière terrestre, c'est la lumière céleste. Parce que la Bible nous dit que ceux qui ne croient pas en Jésus ne verront point la vie. Ils vont être jetés dans les ténèbres du dehors, puisqu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Pour qu'une personne puisse commencer, que ses yeux se rouvrent sur la lumière de la vie, il faut que tu t'engages à suivre Jésus. Parce que la Bible nous dit, « Je suis la lumière du monde. » C'est Jésus qui nous dit ça. Il dit, « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il y aura la lumière de la vie. » Si on ne suit pas Jésus, on ne peut pas avoir la lumière de la vie. Même si on serait une personne très religieuse, même si on serait une personne très morale, un très bon gars, même si on serait un bon yob, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu ne suis pas Jésus, tu n'as pas la lumière de la vie. Et qu'est-ce qui m'a attristé en pensant ça? C'est qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas passé par Jésus et qui croient en Dieu. Là, je me dis, ouais, mais eux autres, croyant en Dieu, ils servent Dieu dans leur façon, mais sans passer par Jésus pour leur salut. La Bible, elle nous dit qu'ils vont se faire enlever ce qu'ils pensent avoir. C'est pas servir Dieu à l'aveuglette qui compte. C'est premièrement de suivre Jésus afin d'être éclairé de sa lumière, d'entrer dans sa lumière. Il n'y a pas d'autre chemin. Quand Jésus nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », nous n'avions peur, le Père des Lumières, que par moi. Si on veut aller dans la vie éternelle, il faut passer par Jésus. Jésus a aussi dit que si nous croyons en lui, nous allons sortir des ténèbres. Dans Jean 12, 46, il dit « Je suis comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. » Si tu te mets à croire en Jésus et à suivre Jésus, tu vas sortir des ténèbres. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, tous les gens sont des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance du malin. Tout le monde naît dans le royaume des ténèbres. Tout le monde sont ténèbres. Tout le monde vit selon les ténèbres. Tout le monde marche dans les ténèbres. Quand tu commences à suivre Jésus, là, tes yeux se rouvrent, commencer à voir la lumière. Puis si tu suis Jésus en croyant en lui et en marchant avec lui, tu vas sortir des ténèbres. Parce que quand tu donnes ta vie au Seigneur, des fois, il y a encore des œuvres ténébreuses dans ta vie. Tu as besoin de sortir de certaines œuvres ténébreuses de ta vie. C'est en croyant en Jésus et en suivant Jésus que tu vas sortir des œuvres des ténèbres. Et celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Tu ne peux pas rester accroché dans les ténèbres si tu suis Jésus. Tu ne demeureras pas là. Parce que si tu le suis, il va te sortir. Jésus a annoncé les paroles du Dieu de lumière. Jean 12, 49, il dit, « Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. » C'est le Père de lumière qui a dit à Jésus, « Dis ça. » Jésus annonça ça. Jésus ne parlait pas de lui-même, il parlait de ce qui est inspiré du Père. Le Père de lumière voulait nous communiquer sa lumière, puis il s'est servi de Jésus qui était la lumière, l'envoyer dans ce monde pour éclairer les nations, puis tout ce que Jésus annonçait, ça venait des paroles du Père de lumière. Jésus nous a fait une invitation pressante à croire à la lumière afin de devenir des enfants de lumière. Dans Jean 12, 35, 36, ça nous dit, « Jésus leur a dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, Croyez en la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en allait se cacher loin d'eux. Mais il dit, pendant que vous avez la lumière, pendant qu'on est dans le contexte de la vie, on est conscient de la vie, qu'on est conscient de la lumière de la vie, croyez en la lumière. Cette lumière, c'est Jésus, afin que vous soyez des enfants de lumière. Tu viens pas au monde, enfant de lumière. C'est pas quelque chose que tu reçois à cause que ton père est dans la lumière. Ça veut pas dire que toi, tu es dans la lumière. Il faut que tu rentres dans la lumière. Puis à un moment donné, il faut que tu décides d'accepter Jésus dans ton cœur. Il faut que tu décides de mettre ta foi que Jésus, c'est le sauveur, puis qu'il est ton sauveur, puis que là, tu t'engages à suivre Jésus. Là, tu deviens un enfant de lumière. Celui qui reçoit cette lumière devient enfant de Dieu. Dans Jean 1, 6 à 9, il dit, « Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean, il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière étant la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, en parlant de cette lumière-là, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. » Tu veux devenir un enfant de lumière? Il faut que tu croies en cette lumière. Puis il dit à tous ceux qui l'ont reçu, cette lumière, tu deviens enfant de Dieu. Par la suite, Jésus enseigna à ses disciples, « Vous êtes la lumière du monde. » Ça, c'est dans Matthieu 5, le verset 14 à 16. « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous dit que c'est nous autres maintenant qui est la lumière dans ce monde. Jésus est parti, mais la lumière est restée. Parce qu'on a ouvert notre cœur à la lumière est rentrée, on l'a reçue. Nous devenons des enfants de lumière, nous devenons des enfants de Dieu et nous sommes la lumière dans ce monde. Le monde marche tout dans noirceur, ils marchent dans les ténèbres, ils ne savent pas où ils s'en vont. Puis quand on parle d'un verset de la Bible, c'est comme si on allume une lumière. On annonce une chose que Jésus a faite, on allume une autre lumière. Plus qu'on annonce les choses de Dieu, plus qu'on parle des choses de Dieu, plus les gens deviennent conscients que Dieu y est là, que Dieu peut faire quelque chose, ils deviennent éclairés parce qu'on leur a communiqué nos lumières, nos vérités que Dieu nous a permis de connaître et de vivre. À partir du moment que nous joignons ces rangs, les rangs du royaume de la lumière, notre marche doit être différente qu'avant. Éphésiens 5, 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Là, je vous apprends rien. On marchait dans la noirceur. On marchait dans les ténèbres. On ne savait pas où on s'en allait. On faisait n'importe quoi qui nous plaisait. On marchait dans le péché comme qu'on voulait. On était aveuglés. Il dit, autrefois, vous étiez ténèbres. On pouvait comprendre votre état et votre manière de marcher, entre parenthèses. Mais maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. On était ténèbres, c'est vrai, mais maintenant on est lumière. La parole de Dieu nous incite maintenant à marcher dans la lumière, à marcher comme une lumière. Maintenant, le but à atteindre dans notre vie chrétienne, c'est de briller de la même lumière que Dieu lui-même. Excusez-moi. Philippiens 2, le verset 15, ça nous dit « Afin que vous soyez irréprochables et purs. » Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. » Lui, il dit, là, juste un peu avant, qu'il est en prière pour eux autres, afin qu'ils deviennent irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. C'est le but pour chacun de ses enfants. Marcher dans la lumière, c'est de devenir irréprochable, pur irrépréhensibles. C'est de même qu'on va être des flambeaux dans ce monde. Être dans la lumière, c'est le contraire des ténèbres. 2 Corinthiens 6, le verset 14, à partir de ce verset-là, il dit « Ne vous mettez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'est-ce qu'il y a de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord qu'il y a entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport qu'entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Il dit, c'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Touchez pas à ce qui est impur, puis je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Marcher dans la lumière, c'est de séparer. Tu ne peux pas être dans la lumière et dans les ténèbres. Tu ne peux pas vouloir refléter la lumière et d'avoir les deux pieds dans les œuvres ténébreuses, des œuvres de ce monde, des œuvres impures, des œuvres qui vient du prince de ce monde, qui vient de ce que le monde nous enseigne à vivre. Même si c'est parmi dans le monde, ça ne veut pas dire que c'est parmi dans le Seigneur. Ça nous dit, sortez du milieu d'eux, puis séparez-vous. Il y a une différence, il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a rien de commun entre le temple de Dieu et le temple des idoles. Tu ne peux pas marcher dans la lumière et dans les ténèbres. Sépare-toi. Sois différent. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ce monde, sa manière de marcher aujourd'hui et les influences que l'ennemi peut faire, c'est pour nous entraîner davantage dans des souillures de notre chair et de notre esprit. Partout ce que tu regardes, que tu sois sur l'Internet, que tu sois sur la rue, que tu sois devant la télévision, il y a des impuretés partout. Il y a des offenses à Dieu partout. Il y a des choses affichées là qui sont contraires à la sainteté et la pureté de Dieu. Partout ce qu'on passe dans ce monde, nos oreilles se remplissent des vidanges de corruption que le monde parle. Quand Isaïe était touché par la vision de Dieu, « Malheur à moi, car je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, puis j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. » À la minute que tu rentres en présence du Dieu Saint, tu réalises ton impureté. Tu réalises que souvent on est embarqué dans le monde, puis on fait la même chose que tout le monde, puis on est les mêmes discours qu'eux autres, on est les mêmes pensées qu'eux autres sur des points, puis on agit comme eux autres sur des points. Toutes sortes de manières impures qui est contraire à la sainteté, à la lumière de Dieu. On est loin d'être des flambeaux. Pour être dans la lumière, il faut se séparer et se purifier de toute souillure. Moi, je pense que, moi, je ne sais pas quel effet que ça fait dans votre vie, mais dans ma vie, ça m'a parlé cette semaine, puis ça continue à me parler pendant que je parle. On peut plus dire, je suis comme les autres. C'est vrai qu'on veut être amis, se faire des amis dans le monde, puis établir des contacts, parler de Dieu, mais il faut que ça soit sur le bon bord, dans le but que toi, tu t'amènes à être meilleur, pas dans le but que toi, tu t'amènes à être pire. La lumière de Dieu en l'homme, ça produit du fruit. Éphésiens 5, le verset 9 à 13, ça nous dit, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, puis prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Des fois, on apprend des choses, on embarque là-dedans, on participe avec les autres dans certaines affaires, des discours, des actions qui sont pas bonnes, juste ou des choses qui proviennent de la vérité. Je ne vais pas nécessairement embarquer dans les détails, Mais il y en a quelques grandes lignes qu'on peut se... Rien que sur notre rapport d'impôt, est-ce qu'on marche dans la justice? Est-ce qu'on est juste pour déclarer ce qu'il y en est? Quand son, surtout, moi, ça me parle aussi. Le Seigneur nous dit, si tu es infidèle dans les petites choses, qui va te confier les plus grandes? Mais l'injustice, ou devenir juste, c'est dans toute la ligne, il faut être un homme juste et intègre. Est-ce que notre patron est capable de dire, ça, c'est un homme juste et intègre? Il ne parle jamais contre moi. Il ne parle jamais contre la compagnie. Il accepte de faire les choses fidèlement. Il pourra te confier tout son argent, puis te confier ses clés, puis confier tout ce qu'il y a. Il n'y a pas une scène qui disparaît. Il n'y a pas une affaire qui nous tenterait de le prendre puis de s'en aller avec quand tu sais qu'il n'y a aucune chance de te faire connaître. Mais ça, c'est des œuvres injustes, des œuvres des ténèbres. Puis le Seigneur veut nous amener à marcher dans une manière juste, sainte, irréprochable, comme Dieu est saint, comme Dieu est trois fois saint, comme Dieu est pur, comme Dieu est sans tache, comme Dieu est glorieux. Il veut que son peuple marche dans la même lumière que lui sur tous les points. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu ne peux plus suivre le monde. Tu ne peux plus suivre le courant de ce monde. À moins que tu ne veuilles plus rien savoir de la marche dans la lumière. Mais je pense que c'est le contraire. Il faut s'encourager à marcher dans la lumière et à abandonner ce qui n'est pas de Dieu afin de rechercher à avoir des vies de plus en plus saintes, des vies qui plaisent à Dieu. Et les disciples sont envoyés dans ce monde pour aider les gens à changer de royaume. Dans Actes 26, le 17 et 18. « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Paul, ça parle de Paul, qui avait été appelé puis qui avait été renvoyé dans le monde afin d'aider les gens à passer des ténèbres à la lumière. Mais comment est-ce qu'il aurait pu réussir s'il marchait lui-même dans les ténèbres? Dans 1 Pierre 2,9, ça nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. » On appartient à Dieu, mais il y a une raison. « Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » On a été sauvés afin qu'on annonce ses vertus. Dieu est saint, Dieu est pur, Dieu est juste, Dieu est tout-puissant, Dieu est éternel, Dieu est grand, c'est ses vertus. Dieu est juste, on annonce sa vertu. Dieu est honnête, c'est ses vertus. Mais on a été sauvés dans le but d'annoncer ses vertus. Il nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. On a compris des choses, on a vécu des choses. Maintenant, on est en connaissance de cause de qu'est-ce que Dieu est et qu'est-ce que Dieu fait et qu'est-ce que Dieu peut faire. Puis on doit annoncer cela parce que Dieu veut continuer à agir à travers de nous. Les gens qui cherchent la vérité, ils vont venir à la lumière. Parce que Jean 3,21, « Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Mais ce qu'on entend là-dedans, « Celui qui agit selon la vérité vient à la lumière. » Il y a des gens qui veulent agir selon la vérité, mais là, c'est parce qu'ils ne savent pas. Mais quand ils vont avoir la connaissance de ces vérités-là, ils vont être intéressés à ces vérités-là, puis ils vont vouloir agir selon ces vérités-là, puis ils vont venir à la lumière. Si vous brillez dans ce monde, il y a des gens qui vont vous voir, puis il y a des gens qui vont être attirés à aller vers vous, puis qui vont s'engager à suivre Jésus à leur tour, parce que, dans le fond, ils veulent suivre la vérité. On le fait pas nécessairement pour ceux qui veulent rien savoir, on le fait parce qu'on veut glorifier Dieu dans nos vies, porter du fruit. Mais en même temps qu'on le fait de servir Dieu puis d'être une lumière, il y a du monde qui vont suivre. La preuve, j'ai accepté après avoir vu quelqu'un. Vous avez tout accepté après avoir vu quelqu'un. Il y a une lumière qui a brillé quelque part dans vos vies. OK? qui a ouvert votre intelligence à comprendre un nouveau chemin devant vous, puis vous êtes engagé dans cette lumière-là. Puis Dieu est fidèle, puis il va le faire aussi pour les autres, pour les amener. Le Seigneur nous recommande de se remettre en question pour voir si nous marchons réellement dans sa lumière. Luc 11, verset 34-35, il dit « Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est en bon état, tout ton corps est éclairé, mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. » Comment est-ce que tu vois ça, la vie? Comment est-ce que tu vois ça, ta manière de réagir? Dieu, il veut qu'on se remette en question. Il dit, hey, est-ce que je marche dans la lumière? Mes œuvres sont-tu de la lumière? Il dit, prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Tu penses être dans une lumière. Tu penses marcher dans la lumière, mais tu peux être en train de marcher dans les ténèbres. Jésus nous dit, examine tes œuvres. Examine-toi pour savoir si vraiment tu marches dans la lumière. Là, fais-toi pas des accroires. On a la Bible comme référence. Ça nous dit dans le psaume 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » On a la parole de Dieu pour nous éclairer, pour se mettre en question, pour dire, « Là, oh, c'est écrit ça, là, à cette heure. » Tu sais, faut se remettre en question pour confesser les choses qui n'ont pas de Dieu puis les abandonner pour rechercher les choses qui viennent de Dieu. Ça doit être la base de notre vie, la parole de Dieu, parce que c'est la lumière sur notre sentier. Si une personne ne croit pas en la Bible, il est aveuglé par les ténèbres. Parce que 2 Corinthiens 4, 3 nous dit, « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. » Ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'évangile, c'est la gloire de Christ. C'est l'image de Dieu. Ce que tu retrouves dans l'évangile, c'est l'image de Dieu. Si les gens ne voient pas, comprennent pas, ils ne croient pas que la Bible, c'est ça, c'est parce qu'ils sont aveuglés, ils marchent dans les ténèbres. Ils sont aveuglés par le Dieu de ce siècle qui aveugle leur intelligence. Leur compréhension est aveuglée puis ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. Nous, on y croit, on s'est accroché parce qu'on l'a cru, on l'a vu, on le sait que c'est vrai. Ça brille pour nous autres. Il y a des gens qui ne le voient pas. Ce matin, je pose une question. Avez-vous l'intelligence obscurcie? Voyez-vous briller la gloire de Dieu dans sa parole? Le Dieu de ce siècle a-t-il aveuglé votre intelligence? Le diable cherche à tromper les gens par ses mensonges. Il faut prendre garde aux visions angéliques, comme les apparitions, les rêves, aux enseignements trompeurs qui ne sont pas basés sur l'enseignement de la parole de Dieu, parce que ça ne vient pas de la lumière de Dieu quand ce n'est pas sorti de la parole de Dieu. Que même si tu as une apparition, que la Bible nous dit, un ange qui t'apparaît, une vision d'une lumière, puis tu penses que c'est Dieu de lumière qui t'apparaît, ou qui t'a apparu dans un rêve, ou qui t'apparaît dans la réalité, c'est déjà arrivé que des gens ont vu une apparition d'une lumière, c'est leur esprit guide, c'est leur Dieu, c'est leur karma, appelez-les comme vous voulez, ils l'appellent les anges gardiens, ils l'appellent la lumière, ils l'appellent Dieu, ils l'appellent de toutes les façons, mais ce qui sort de la bouche de cette apparition-là, ça doit être filtré, regardé face à ce que la Bible a dit, afin de savoir si vraiment ça vient de Dieu ou pas. Si quelqu'un ne croit pas en la Bible, il est aveuglé, il marche dans les ténèbres, il voit une apparition mensongère, il va embarquer là-dedans, il va croire à cela, puis il va être entraîné dans le péché, encore plus profond dans son aveuglement. Pensant suivre la lumière, il s'enfonce dans les ténèbres. Puis il y en a beaucoup. Rien que la pensée du nouvel âge, ils sont vraiment en contact avec un esprit, puis ils se pensent marcher dans la lumière. Les livres du nouvel âge, marcher dans la lumière avec Edgar Cayce ou avec un autre, une femme populaire des États-Unis. Des livres qui se disent marcher en lumière, mais ils ne prêchent pas la parole de Dieu. Ils sont dans les ténèbres, ils marchent dans les ténèbres. C'est des aveugles qui conduisent d'autres aveugles, qui vont tomber tous les deux dans la même fosse. Satan, il se fait passer pour un ange de lumière. Puis ses serviteurs aussi. Ça nous dit, Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étrange que ses ministres se déguisent du sang en ministres de justice. Il essaie de se faire passer pour la lumière, Satan. Il peut avoir une apparition, la personne voit une lumière, c'est Satan qui est là. Il dit, si le diable se déguise en ange de lumière, il dit, il n'est pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Il y a des gens, des prédicateurs, qui prêchent dans les églises évangéliques, sans nommer aucun nom, qui ne sont pas inspirés pantoute par le Saint-Esprit. C'est des ministres de Satan qui se déguisent en ministres de justice. Et pour savoir si c'est des vrais ou si ce n'est pas des vrais, examinez si c'est basé sur la parole de Dieu. Tu ne peux pas te fier à tout esprit, mais il faut que tu sondes des esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et le premier point dans lequel qu'on doit sonder, à part de s'ils confessent Jésus, s'ils ne confessent pas, ça c'est sûr, c'est en partant s'ils ne confessent pas Jésus, ils sont dans le champ. Mais même s'ils parleraient de Jésus, quel Jésus? Si la Bible nous dit, si quelqu'un vient à vous et vous prêche un autre Jésus, ou si vous recevez un autre esprit, il y a les gens de Corinthe, non, ça c'est dans 2 Corinthiens chapitre 1, les gens de Corinthe, il est en train de recevoir un autre esprit, croire à un autre évangile, puis de croire à un autre Jésus que celui qui avait été annoncé par Paul. Il est en train de se faire séduire. Comment faire pour savoir si je suis en train de me faire séduire? Il est-tu en train de prêcher la sainte doctrine? Il est-tu en train de prêcher la parole de Dieu? C'est-tu des bibliques qu'est-ce qu'il dit? Alors, tu peux parler de Jésus sans que ça soit biblique. Tu peux avoir quelques versets intégrés dans ton message sans que l'essence du message soit biblique. Puis que ça t'entraîne des profondeurs. Il faut sonder. Si Satan se déguise en ange de lumière, puis il y a des prédicateurs que ça nous dit qui sont déguisés en prédicateurs de la justice, puis qui pourraient nous entraîner à croire en des mensonges, à combien de fortes raisons quand on s'en retourne dans le monde, qu'on rentre parmi du monde qui appartiennent carrément aux ténèbres, puis s'affichent pour les ténèbres, qu'on est en contact avec ces gens-là qu'il faut prendre garde de ne pas se faire séduire, ou tromper, ou entraîner dans leur péché. Si le diable est capable de m'apparaître en lumière pour m'entraîner dans le mensonge, s'il peut avoir des prédicateurs qui peuvent me prêcher pour m'entraîner dans le mensonge, imaginez-vous comment on peut se faire entraîner dans le mensonge par les gens de ce monde qui ne croient carrément pas en Dieu, puis s'affichent carrément qu'ils ne croient pas en Dieu. Mais leurs œuvres, ils sont complètement ignorants de la vie de Dieu. Leurs œuvres, faut prendre garde de ne pas être entraîné, de ne pas être tenté, de ne pas être séduit, de ne pas embarquer dans les mêmes discours, dans les mêmes pratiques. Il y a d'autres critères pour s'évaluer si vraiment on marche dans la lumière. Il ne faut pas se tromper nous-mêmes non plus, parce que quiconque est son frère, il est dans les ténèbres. 1 Jean 2, le verset 9-11, « Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qu'il est son frère, il est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. » Mais celui qui est son frère, il est dans les ténèbres, puis il marche dans les ténèbres, puis il sait pas où il s'en va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Tu peux sonder avec la parole de Dieu pour savoir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai pour marcher dans la lumière. Sonde surtout si tu es en train de marcher dans l'amour. Parce que si tu marches dans la haine d'un frère, tu es dans les ténèbres, tu marches dans les ténèbres, tu sais pas où tu t'en vas, et les ténèbres ont aveuglé tes yeux. Ça parle à des chrétiens. Tu peux être en train de marcher dans les ténèbres. C'est pour ça qu'il nous dit, prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. On pourrait être entraîné dans les ténèbres toute notre vie puis arriver à la fin de se faire enlever ce qu'on pense avoir. C'est pas ce qu'on pense être qui compte, c'est qui ce qu'on est, qui ce qu'on vit. Là, tu marches dans le fruit de la lumière, dans le fruit de l'esprit, dans la vie de Dieu. Où il faut s'examiner soi-même à tous les jours pour pas se faire embarquer dans un piège. Si nous avons de la misère à s'évaluer, demandons-lui de nous sonder au Seigneur. Psaume 139, 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, puis conduis-moi dans la voie de l'éternité. Tu peux demander à Dieu de sonder ton cœur. Si tu ne comprends pas ton cœur, si tu ne le vois pas, lui dit, prouve-moi et connais mes pensées. Quand on est dans l'épreuve, qu'on vit des choses difficiles, c'est là que ton cœur parle. Si tu te massacres, là, tu marches dans les ténèbres à 100%, Dieu est en train de permettre que tu sois éprouvé, pour que ton cœur soit révélé. Les actions sont-elles ténébreuses ou sont de la lumière? Est-ce que tu acceptes les situations en louangeant le Seigneur ou en critiquant et en descendant tous les saints du ciel et en quasiment sautant en face de ceux qui te font du trouble? Il faut sonder. Puis demander à Dieu qu'il nous sonde. Puis Dieu nous sonde quand il permet des épreuves. C'est pour sonder. Là, ce qui sort, c'est là, fais attention. Il y a quatre raisons pour lesquelles qu'on doit marcher dans la lumière. On doit marcher dans la lumière afin d'avoir une réelle communion avec Dieu. Dans 1 Jean 1, 6, 7, il dit, si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de toute iniquité, de tout péché. Si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Puis là, son sang nous purifie de tout péché. Si on marche dans les ténèbres, on n'est pas en communion avec lui. Son sang ne purifie pas. Si nous ne pouvons pas éclairer par notre physique, notre intelligence charnelle, ni en agissant selon le monde, comme une lampe a besoin d'électricité, nous avons besoin de la présence de l'Esprit de Dieu pour éclairer. Une lumière, là, elle n'éclaire pas par elle-même que celle branchant le courant. Pensez pas d'être des lumières dans ce monde sans être branchés et connectés sur le Dieu vivant, d'être vraiment en communion avec lui. Et pour être en communion avec lui, il faut que tu marches dans la lumière. Si tu marches dans la lumière, tu vas être en communion, tu vas éclairer. On doit marcher dans la lumière afin d'éclairer les gens qui nous entourent. Matthieu 5, 15, 16, ça nous dit, et n'en allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il dit, vous êtes devenus chrétiens, vous êtes devenus des lumières, pas pour être en dessous de la table, pour être sur la table, éclairer tout le monde qui sont autour. Si on veut que les gens viennent à Jésus, il faut qu'ils voient la lumière. Mais des fois, on n'éclaire pas fort. Je pense que des fois, on a un socket d'une lumière de 2 watts. Puis en plus, il y a un dimmer dessus, que ça n'éclaire pas fort. Puis des fois, on est des lumières déconnectées. Ça n'éclaire pas en tout. Puis là, on se dit, hey, je suis un chrétien quand même, mais on vit dans le péché par-dessus la tête, puis on est embarqué dans la corruption avec tout le monde. Puis on se pense en être en train d'éclairer. On est déconnecté. Tu vas être lumineux, éclairé quand tu es connecté. À quasiment toutes les réunions, on est lumière. On éclaire dans l'Église. Là, on parle de Dieu, puis on est dans la sainteté, puis on est proche de Dieu, on se sent plus proche. Mais quand on sort dehors, on se cache en dessous de la table, ça éclaire pas fort. C'est vrai. On a été sauvés afin que notre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient. Il faut pas se gêner de se consacrer davantage pour briller davantage. Quand on a été sauvé, on s'appartient plus, on s'est donné à Dieu. C'est un sacrifice raisonnable de se donner à Dieu. On s'appartient plus, on est plus là pour faire notre volonté. Là, on décide de suivre Jésus. Mais plus que tu vas te consacrer au Seigneur, plus que tu vas éclairer. Tous les aspects de la vie de Dieu vont être vus dans ta vie. Toute notre vie, on peut être appelé à abandonner quelque chose de plus afin d'éclairer encore plus. Lorsque nous serons des lumières, cela va faire un effet dans les gens qui nous entourent. Soit les attirer. Quand tu es en noirceur, tu allumes une lumière, qu'est-ce que ça fait? Toutes les bébites s'en vont à côté. Mais si tu deviens une lumière, les gens vont être attirés à venir vers toi. Ils vont dire, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans toi, tu as quelque chose de spécial. Oui, c'est naturel, c'est l'Esprit Saint qui éclaire dans ta vie. Que lui, spirituellement, son esprit est attiré, comme les insectes sont attirés vers la lumière. Mais il y en a d'autres personnes, ça va être l'effet contraire. Ils vont fuir parce qu'ils préfèrent les ténèbres. T'allumes une lumière, tac, oh, j'ai mal aux yeux, prends ça. Ça lui fait mal quand t'éclaires. Il y en a qui peuvent fuir à cause que t'éclaires, mais c'est pas grave, faut t'éclairer quand même. On doit marcher dans la lumière afin de marcher dans les chemins justes et que les gens soient bénis à travers nous. Ça achève. Soyez pas découragés. Avez-vous déjà pensé à la répercussion de la bénédiction d'Abraham? Dans Genèse 26, Isaac a eu cette parole-là venant du Seigneur. Versets 4 et 5. « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je te donnerai à ta postérité toutes ces contrées et à toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que Abraham a obéi à ma voix et qui a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Parce que Abraham marchait avec Dieu, il a obtenu les promesses, puis son fils a obtenu les promesses à cause d'Abraham. Son autre fils, c'est Jacob qui est devenu Israël, a obtenu les promesses. Israël était une promesse. Tous les descendants d'Israël étaient une bénédiction pour toutes les nations à cause de la vie d'Abraham. À cause qu'il marchait dans la justice, toutes les nations ont été bénies à travers Abraham. Il s'était dit aussi, Galates 3:16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Il n'est pas dit « aux postérités » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'en s'agit d'une seule, une seule postérité, c'est-à-dire à Christ. Jésus était la postérité d'Abraham en qui toutes les promesses étaient sur lui. À cause de sa fidélité, toutes les nations de la terre ont été bénies à travers la postérité d'Abraham. Cette postérité-là, c'était Jésus. À cause de sa vie de justice, tout le monde a été béni, mais je dois marcher dans la lumière afin que la bénédiction de Dieu passe et bénisse ma femme, mes enfants, ceux qui m'entourent à mon travail, dans mon église. On devient des bénédictions pour tout le monde autour de nous autres à cause qu'on est fidèle, qu'on marche dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière, ça c'est le quatrième point, parce que nous allons porter beaucoup de fruits. Jean 15, 16, « Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » Ça, un cèpe, c'est le pied d'une vigne. Le sarment, c'est la branche de la vigne. « Vous êtes les branches de la vigne. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous marchez dans la lumière, vous allez être mutuellement en communion. Votre vie va s'épanouir, va grandir, va prospérer spirituellement. Vous allez porter beaucoup de fruits dans votre vie. Jésus nous avertit de craindre Dieu qui entend toutes nos paroles. Il voit tout, il sait tout. Il n'y a rien de caché devant lui. Dans Luc 12, 2, il dit, « Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que je vous aurais dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière. Ce que vous aurez dit à l'oreille, dans les chambres, sera prêché sur les toits. » Tu es avec ta femme dans ta chambre. Tu lui dis quelque chose dans l'oreille doucement. Ça va être révélé, tout va être révélé. Pensez pas qu'il va y avoir quelque chose de caché à quelque part. Votre vie entière va être révélée. Tout ce que vous avez dit, fait, senti, vécu, ressenti, ou comme amertume, ou Dieu sonde nos cœurs. Il connaît tout, ça va tout être révélé. On ne peut rien cacher à Dieu. Il sait si on marche dans la lumière ou non. On ne peut pas jouer à l'hypocrite devant lui. Je suis à l'église, là, je veux marcher pour le Seigneur, puis après ça, je sors de l'église, puis je veux marcher selon le monde. À quelque part, faut réaliser, il y a une petite lumière qui s'allume pour nous faire comprendre qu'il faut que je marche dans la lumière, parce qu'il voit tout. Je peux être capable de me tordre assez mes idées pour camoufler ma conscience, pour me faire accraire que je suis encore dans la lumière, mais tu ne pourras pas accraire à Dieu que tu marches dans la lumière quand tu es dans les ténèbres. Dieu voit tout, il sait tout, il entend tout, il est toujours là à côté de toi, puis en toi. Il sait tout. Faut arrêter de se tromper nous-mêmes par des faux raisonnements puis commencer à mettre en pratique la parole puis de clencher dans cette direction-là. Pour ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus comme leur sauveur, que faites-vous maintenant de sa parole? Si vous vous accrochez à Jésus, vous allez sortir des ténèbres. Vous allez commencer à vivre quelque chose de plus grand qui vient de sa lumière à lui. Le Seigneur veut le faire. Comme j'ai dit tout à l'heure, quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Ce n'est pas le plan de Dieu, la volonté de Dieu que tu demeures dans les ténèbres. Il veut que tu marches dans la lumière. Si tu es chrétien, Il veut que tu marches dans la lumière. Si tu n'as pas encore accepté Jésus comme ton sauveur, il veut que tu marches dans la lumière. Laisse plus l'ennemi te tromper par des fausses pensées, pensant que tu peux ressortir d'ici, puis continuer à vouloir rester tel que tu étais, puis continuer à marcher dans les ténèbres, continuer à vivre tout croche, pensant que tu vas être avec le Seigneur, puis pensant que tu vas vivre la vie éternelle. Non. Il faut que tu viennes à Jésus, puis tu le reçoives. Parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ça a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. J'invite les musiciens à venir en avant. On va faire une prière ensemble. C'est le moment, si jamais dans votre cœur, vous dites, vous êtes enfant de Dieu déjà, mais vous dites, là, j'ai commencé à... Je vous demanderais qu'après la réunion, que vous n'en alliez pas tout de suite, je vais juste vous passer un message, mais pendant que vous réalisez tout ce que vous avez entendu, là, que Dieu nous appelle à marcher dans la lumière, et vous réalisez que votre vie n'est pas conforme, vous êtes sondé vous-même, puis vous réalisez que ce n'est pas conforme, qu'il y a des points, mettez ça tout de suite dans les mains du Seigneur. Abandonnez votre vie. Abandonnez ces points-là. La Bible nous dit... Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Il faut les confesser, il faut les dire. Seigneur, telle affaire, je ne veux plus vivre ça. Je ne veux plus rester là-dedans. Je te l'abandonne. Je me repens. Ça veut dire, je regrette cette chose-là puis je m'en détourne. Je ne veux plus vivre dans ça. Et le Seigneur va vous pardonner tout de suite ce qu'il en est de ces choses-là. Parce qu'il veut vous marcher dans la lumière. Et ceux qui n'ont pas encore accepté Jésus vont faire une prière. Suite après cette prière-là, je vais comme faire une prière ensemble. Tout le monde va répéter cette prière-là, mais faites cette prière-là, et après que vous auriez fait cette prière-là, allez, venez me le dire, ou allez le dire à un autre chrétien que vous avez fait la prière de donner votre vie au Seigneur. Restez pas comme ça. Parce que, après avoir reçu la lumière aujourd'hui de la pensée de Dieu, si vous sortez, et vous n'avez pas fait de move dans aucun aspect de votre vie, vous allez être encore pareil la semaine prochaine, vous n'aurez pas changé. Dans 2 semaines, pareil. Dans 1 mois, pareil. Et si aujourd'hui, on entend sa voix, endurcissez pas votre cœur. Laissez pas votre cœur s'endurcir. Ouvrez votre cœur, dites oui, je le fais. Je me donne au Seigneur. Je l'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. Je reçois cette lumière. Je fais de moins que je deviens l'enfant de Dieu. Alléluia. On prie ensemble. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, c'est bien humblement que je m'approche de toi, parce que je reconnais, Seigneur, que sans toi, je suis rien. Ma vie n'est que corruption. Mes paroles ne sont que corruption. Mes actions aussi. Je marche dans les ténèbres. Souvent, c'est des choses qui te déplaisent. Je te demande pardon, Seigneur. Je te demande de me sonder, de me révéler c'est quoi les pensées de mon cœur, afin que mon cœur change. Fais cette œuvre en chacun de mes frères et sœurs aussi, Seigneur. Donne-nous tous de marcher dans la lumière, comme tu es toi-même la lumière. Et on va faire une prière pour ceux qui veulent donner leur vie au Seigneur. Je vous demanderai à tout le monde de la répéter. Seigneur, je reconnais que je suis un homme pécheur. Je sais que ma vie n'est que péché et ta colère est sur moi. Seigneur, je reconnais que Jésus est mort sur la croix, qu'il a versé son sang pour que je sois pardonné. Seigneur, j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel. J'accepte ton pardon. Je te reçois maintenant. Rentre dans ma vie par ton esprit. Prends tout, Seigneur, et conduis-moi dans tes voies. Merci, Seigneur, de l'œuvre que tu fais maintenant dans ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, allez le dire à quelqu'un. La Bible dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia.